humbles, souffrant, le Messie annoncé par le prophète, aussi sous cet angle-là, sur le Messie qui n'est pas venu pour régner tout de suite, mais qui est venu pour sauver. Sur réfléchir un petit peu, qu'est-ce que ça change dans nos vies de suivre un Messie qui s'est abaissé, qui s'est fait homme, petit, qui a souffert, qui est mort, et pourquoi est-ce que c'est aussi important pour Dieu que les choses soient passées comme ça?
Merci pour l'introduction, la question. Alors effectivement, on a déjà vu tout à l'heure dans ce premier panorama qu'il y avait des indices sur le fait que le Messie serait peut-être bien souffrant. Et le premier indice, on l'avait trouvé dans le premier texte, et il te brisera le talon. Et le Messie est venu effectivement pour sauver. Le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver. Donc sa venue, sa première venue, est notre thème d'aujourd'hui, et il est venu et il va revenir. Mais la première fois, il est venu pour sauver. Et on pensait peut-être qu'il serait venu pour sauver son peuple, les Romains, et c'est peut-être ce que certains pensaient. Et on sait qu'il avait même choisi un zélote dans son équipe de 12 apôtres, et les zélotes, c'était ceux qui, un peu comme des terroristes, se préparaient pour faire des actions peut-être justement de terrorisme contre les Romains. Mais il a aussi transformé son disciple, et ils ont tous réalisé que ça n'était pas au programme à ce moment-là. Il vient, il est venu pour délivrer, pour sauver, pas des Romains, mais pour sauver du péché. Alors, il y a des prophéties qui parlent d'humilité et de souffrance. Si on en regarde quelques-unes, dans Ésaïe 50, le Seigneur l'Éternel m'a donné la langue des savants, pour que je sache soutenir par une parole celui qui est fatigué. Il me réveille chaque matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute, comme ceux qu'on enseigne. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et moi je n'ai pas été rebelle, je n'ai pas reculé, j'ai donné mon dos à ceux qui frappaient, mes joues à ceux qui arrachaient le poids. Je n'ai pas caché mon visage à l'opprobre et au crachat, mais le Seigneur l'Éternel m'aidera. C'est pourquoi je ne resterai pas dans la honte. C'est pourquoi j'ai dressé ma face comme un caillou. Je ne serai pas confus. Chaque matin, Seigneur Jésus, dans sa vie d'homme, était passé du temps en prière, on le voit, où ses disciples cherchent tôt le matin. Il s'était levé pour aller dans un lieu à l'écart pour prier. Et il était comme celui qui écoute, celui qui se laisse enseigner, écoute, celui qu'on enseigne. Et Dieu lui ouvrait l'oreille pour cela, lui réveillait l'oreille pour qu'il écoute, pour qu'il soit enseigné. Donc il était comme homme, quelqu'un qui aimait la prière, qui aimait les textes, qui les lisait, qui connaissait. Quand il fait la lecture dans la synagogue de Nazareth, il trouve le passage qui le concernait. Donc il le connaît. Alors vous allez me dire, c'est facile, c'est lui qui a écrit, alors il faut bien le connaître. Oui, bien sûr, ça c'est ce côté divin. Mais en tant qu'homme, il fallait bien qu'il les lise, il fallait bien qu'il s'y intéresse. Et on sait qu'il le faisait, puisqu'à 12 ans déjà, au temple, il pose des questions à tous les enseignants, aux docteurs de la loi. Donc, en tant que jeune, qu'enfant, que jeune, il s'intéressait aux livres, il était enseigné par Dieu. Mais si on regarde ce texte, eh bien, on remarque que langue, oreille, dos, joue, poil, visage, face, on a ici sept parties de son corps qui vont être soumis effectivement a de la souffrance. Frappé, arrache, opprobre, crachat, honte, confusion. Donc on a un homme dépendant qui apprend, qui est dans la prière, et cet homme dans son corps, et ici, cette partie de son corps, eh bien, il subit la souffrance. Donc, un premier texte qui le montre clairement. Un peu plus loin, dans le même prophète Ésaïe, on pense bien sûr au chapitre 53, où c'est très très important. Il est méprisé et délaissé des hommes, homme de douleur, sachant ce que c'est que la souffrance, comme quelqu'un de qui on se détourne. Il est méprisé, et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Certainement, lui a porté nos souffrances, et s'est chargé de nos douleurs. Et nous, nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu, affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc voilà un texte qui est plus connu, évidemment, mais on voit l'abondance de mots qui expriment cette souffrance. Et on continue la lecture de ce même texte. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été opprimé et affligé. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à la boucherie. Il a été comme une brebis muette devant ceux qui la tondent et il n'a pas ouvert sa bouche. Les prophéties parlent de sa souffrance. Une autre prophétie nous donnait la date de sa souffrance. C'est la prophétie de Daniel 9. Va nous donner la date, parce que depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie le prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. La place et le fossé seront rebâtis, et cela en des temps de trouble. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. Donc là, on commence à être dans des textes hyper clairs, où il est parlé du Messie. On a des dates, et il nous est dit qu'il va être retranché, qu'il n'aura rien, et qu'il va y avoir une destruction de la ville. Waouh ! On a la date, et on parle du Messie. Au passage, ce sont les deux seuls versets où le Messie, avec ce mot hébreu, Messie, est utilisé dans l'Ancien Testament. Et en fait, il n'y en a que deux dans le Nouveau. On les a lus hier soir à La Rochelle. Il n'y en a que deux dans le Nouveau. Un, tout simplement, c'est quand André, enthousiaste, va voir son frère et lui dit « Nous avons trouvé le Messie !» Et on peut se douter, en lisant ce premier chapitre de Jean, que c'est peut-être un mot un tout petit peu politiquement incorrect, un petit peu difficile à prononcer dans le monde juif, bien sérieux, bien versé dans les textes, parce que il y avait les Romains autour, et on avait peut-être un petit peu peur de prononcer. Alors André, lui, avait peut-être toute sa fougue et son enthousiasme, le dit clair et net à son frère Pierre. Mais juste après, le verset d'après, c'est Philippe qui va le dire à Nathanaël, et là il utilise une grande périphrase en disant « Nous avons trouvé celui dont Moïse et dont les prophètes ont écrit, c'est Jésus, il est le fils de Joseph, il est de Nazareth », donc une grande périphrase pour éviter peut-être le mot « Messie », mais c'est bien sûr ce qu'il veut dire. Donc une fois le Nouveau Testament, c'est André, et un peu plus loin, chapitre 4, le Messie qui est parlé par la bouche de la Samaritaine, donc une non-juive, quand le Messie sera venu. Donc le Messie, il est mentionné que 4 fois. Hein, dans la Bible. Alors, comment on calcule les dates? Il y a 7 semaines et 62 semaines, donc ça fait 69. Une semaine, c'est 7 choses, une septaine. Donc on se demande, est-ce que c'est une semaine de jour? Est-ce que c'est une semaine d'année? Voilà, et effectivement, si on calcule avec semaine d'année, donc si on avait 70 semaines d'année fois 7 ans, alors 70 fois 7, on va faire simple. 7 fois 7
49.
Bien, 70 fois 7
490.
490. Moins 7
483.
Très bien. Ah, donc on a la durée, 483 ans, en supposant que c'est ça. Et maintenant, il nous faut la date du début. Mais elle est écrite. Depuis la sortie de la parole pour établir et rebâtir Jérusalem. Donc, il y a un moment où, non pas la sortie de la parole de Cyrus pour avoir le droit de rentrer en Israël, ça c'était au tout début, quand ils se sont d'abord occupés de l'autel, de refaire le sacrifice, etc. Non, non, ça c'est beaucoup bien avant. Il y a un moment où on dit maintenant vous avez le droit de bâtir Jérusalem. Donc, c'est la sortie, c'est quand Néhémie part pour aller rebâtir. Il a le droit de rebâtir, il fait le tour de la muraille, etc. Alors bon, après les dates, on est toujours à une dizaine d'années près, hein, c'est pas très grave. Mais là, il se trouve que, en prenant bêtement la date qui est au bas de ma Bible, elle peut être contestée, hein, mais la date qui est au bas de ma Bible dans Néhémie chapitre 1, c'est 455. Hein, moins 455. Alors si on fait moins 455 plus 483 plus 1, parce qu'il n'y a pas d'année 0, très bien, on arrive à l'an 29. Ah ben ça alors, on arrive à l'an 29. Et comme on sait que le Seigneur Jésus est né un petit peu avant l'an 1, on sait qu'il est né en moins 4 ou moins 5, et ça on le sait parce que Hérode le Grand, celui qui voulait le tuer, est mort, lui, en moins 4, moins 5. Donc, on sait que Bethléem et ensuite le massacre des innocents, tout ça, ça se passe en moins quelque chose, moins 3, moins 4, moins 5. 33 ans, mort en 29. Wow. Alors, on peut recalculer, hein. On peut se battre sur des calculs, ça n'a aucune importance. Mais vous comprenez qu'on est dans de la précision divine, pour nous donner la date. Et donc, pas la date de sa naissance, mais la date de sa mort. Alors, si on continue, on a donc des prophéties qui parlent d'humilité et de souffrance. Ça, c'était l'aspect prophétique. Mais dans les psaumes, alors, on a des textes qui expriment sa propre. Et là, on va en lire quelques-uns, mais je ne peux pas vous mettre de la couleur. Je peux pas, sinon, il faudrait tout colorer. Donc, c'est tout blanc. Psaume 22. Mais moi, je suis un ver, et non pas un homme. La honte des hommes, le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, ils hochent la tête. Ils se confient à l'Éternel. Qu'il le fasse échapper, qu'il le délivre, car il prend son plaisir en lui. C'est exactement ce qui s'est passé à la croix. Vous vous souvenez, quand certains disaient, mais descends de la croix et délivre-nous. Mais c'est toi qui m'as tiré du ventre maternel. Tu m'as donné confiance sur les seins de ma mère. C'est à toi que je fus remis dès avant ma naissance. Tu es mon Dieu dès le ventre de ma mère. On se souvient du tressaillement de joie du petit bébé Jean, son cousin, qui avait 6 mois de plus dans le ventre d'Élisabeth, quand Marie, avec le petit enfant Jésus, déjà tout caché dans son ventre, arrive. Et puis il est né de femme, il est né sous la loi, il est incarné, c'est la naissance virginale qui fait partie merveilleusement de la révélation. C'est caché là aussi dans ce psaume. Ne te tiens pas loin de moi, car la détresse est proche, car il n'y a personne qui secourt. Beaucoup de taureaux m'ont environné, des puissants de Bazan m'ont entouré. Ils ouvrent leur gueule contre moi comme un lion déchirant et rugissant. Je suis répandu comme de l'eau, et tous mes os se déjoignent, on pense à la croix. Mon cœur est comme de la cire, mais fondu au-dedans de mes entrailles, on pense à la chaleur, à la soif de la croix. Ma vigueur est desséchée comme de la terre cuite, ma langue est attachée à mon palais. On se souvient qu'il a dit « J'ai soif » et tu m'as mis dans la poussière de la mort. Car des chiens m'ont environné, une troupe de méchants m'a entouré. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Là, une prophétie claire sur la croix, mais aussi cette troupe qui entoure. La croix était proche de la ville. Les gens passaient. Les gens regardaient l'affiche. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Je compterai tous mes os, je serai capable de tous les compter. Souffrance aussi du crucifié. Il me contemple, il me regarde, il est exposé, visible et élevé de la terre. Il partage entre eux mes vêtements et sur ma robe, il jette le sort. Les soldats ont partagé son vêtement et effectivement sa robe qui était tissée sans couture, tout d'une pièce, trop belle pour qu'on la déchire. Eh bien, ils ont jeté le sort sur elle. Et un soldat a récupéré sa robe et peut-être qu'il l'a portée. C'était un beau vêtement. Une robe qui montrait combien toute sa vie était sans couture, combien toute sa vie était parfaite. Et on espère que ce soldat, peut-être un jour, a compris qui il était. Et nous-mêmes, si nous portons sa vie, si on essaye de lui ressembler, si on prend sa tunique, eh bien, soyons effectivement en accord avec cette personne authentique, sans couture, parfaite. Mais toi, Éternel, ne te tiens pas loin. Toi qui es ma force, hâte-toi de me secourir. Délivre mon âme de l'épée, mon unique de la patte du chien. Sauve-moi de la gueule du lion. C'était le psaume 22. Le psaume 69 exprime aussi d'autres souffrances. Ceux qui me haïssent sans cause sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui voudraient me perdre, qui sont à tort mes ennemis, sont puissants. Ce que je n'avais pas ravi, je l'ai alors rendu. Lui qui n'avait pas ravi la gloire de Dieu, il lui a rendu sa gloire. Lui qui avait toujours vécu dans la perfection, eh bien, il a payé pour les autres. L'opprobre m'a brisé le cœur. L'opprobre, c'est donc la honte, hein, c'est le fait de recevoir des choses qu'on ne mérite pas, c'est le fait d'être exposé à la vue de tous d'une façon honteuse. Eh bien, quand on est insensible, bon, ben, ça nous passe par-dessus, mais quand on est sensible, alors ça brise le cœur. Et le Seigneur Jésus, il est sensible. L'opprobre m'a brisé le cœur et je suis accablé. J'ai attendu que quelqu'un ait compassion de moi, mais il n'y a eu personne, des consolateurs, mais je n'en ai pas trouvé. Quand il était dans son procès, quand il était au premier étage, chez Caïphe, et qu'en bas, dans la cour, il y avait ce groupe de soldats avec le feu, et au premier étage, on lui pose la question. Mais n'entends-tu rien, tous ces témoignages, parce qu'on avait fait venir des faux témoins. Et des faux témoins qui donnaient un témoignage, et les témoignages des faux témoins ne s'accordaient pas. Alors on se dit, alors, est-ce qu'il n'y a pas un vrai témoin qui pourrait témoigner? Puisque même les faux, ils n'arrivent pas à s'accorder. On attendrait un vrai. Et le vrai témoin, il est dans la cour. Et malheureusement, c'est Pierre, et il va renier. J'ai attendu, mais il n'y a eu personne, des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. Ils ont mis du fiel dans ma nourriture, dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. En allant vers la croix, on lui propose une boisson avec du fiel, avec quelque chose qui est un peu anesthésiant, voilà, ou anesthésiant, ou un petit peu comme de l'alcool ou quelque chose pour éviter la douleur et faire qu'on ne réalise pas très bien. L'ayant goûté, il n'en voulut pas. Il l'a goûté parce qu'il tenait quand même à montrer son appréciation auprès de la personne qui finalement gentiment lui avait donné. Donc il a accepté ce geste d'amitié, ça c'était un geste gentil, mais il n'en voulut pas boire puisqu'il voulait bien sûr être parfaitement conscient de tout ce qui allait se passer. Ils ont mis du fiel dans ma nourriture et dans ma soif, ils m'ont abreuvé du vinaigre quand il a dit « j'ai soif sur la croix ». Quelqu'un, vous souvenez, a trempé une éponge dans du vinaigre, du mauvais vin de soldats qui servait de boisson. Hein, c'était pas on voulait exprès lui donner quelque chose de mauvais, c'est pas ça. Mais on prend ce qu'on avait sous la main, mais c'était du vinaigre. C'était, voilà, dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. Un autre psaume, et vous remarquez qu'à peu près à chaque fois, je prends trois exemples dans tous nos sujets. Donc un troisième ici, après le 22, le 69, le 102, maintenant un autre psaume messianique, des psaumes qui dévoilent son cœur dans la souffrance. Il a abattu ma force dans le chemin, il a abrégé mes jours. J'ai dit, mon Dieu, ne m'enlève pas à la moitié de mes jours. Tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham? Tu n'as pas 50 ans. Il n'avait pas 50 ans, il avait 33 ans. Peut-être qu'il faisait un peu plus vieux, peut-être que 50 c'était pour les juifs un âge tout à fait important et qu'ils utilisent dans leur façon de s'exprimer. Mais en tout cas, c'est un homme jeune. Tu n'as pas 50 ans. Et tu as vu Abraham? Avant qu'Abraham fût, je suis. Ça, c'était une réponse. Et cette réponse, elle est en cohérence avec celle-là, la deuxième partie du verset 25. Tes années sont de génération en génération. Donc, si ça commence à être déjà la réponse de Dieu à son fils. Tu as jadis fondé la terre, les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Et si on se permet de faire cette interprétation de ce texte, donc, en un dialogue entre le fils et le père, le fils qui exprime « Mon Dieu, ne m'enlève pas la moitié de tes jours » et le père qui lui répond « Tes années sont de génération en génération, tu as jadis fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains », c'est parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux le lit comme ça, ce texte. Et alors, effectivement, il prend une grande dimension. Il est le Créateur, tu as jadis fondé la terre, les cieux sont l'ouvrage de tes mains, eux ils périront, mais toi tu subsisteras, ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, et ils seront changés, mais toi tu es le même, et tes années ne finiront pas. Donc il est souffrant, il va être retranché à la moitié de ses jours, jeune homme il va mourir, mais sa résurrection, mais sa vie, son caractère éternel sont déjà posés ici dans ce psaume et nous continuerons bien sûr à le lire tout au long de notre journée. Donc, des prophéties annonçaient sa souffrance, des psaumes exprimés par des voix poétiques, des sentiments du Messie souffrant. Et maintenant, sa vie dans les évangiles, eh bien, s'inscrivait dans ces prophéties de souffrance. Et quand on commence à le regarder dans sa vie, évidemment, on se dit, mais est-ce qu'il pourrait être un exemple pour moi? Et si on regarde un premier exemple, en Matthieu 8, le soir venu, on lui apporta beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits par une parole et guérit tous ceux qui se portaient mal, de sorte que soit accompli ce qui avait été dit par le prophète Ésaïe. Donc on a lu tout à l'heure dans les prophéties qui montraient sa souffrance, lui-même a pris nos infirmités et a porté nos maladies. Donc le voilà dans sa vie de service, et il est disponible. On lui apporte beaucoup de démoniaques, il chasse les esprits, guérit ceux qui se portent mal, et ça se fait le soir venu, parce qu'en fait, il y a des grandes journées. Et on a son côté disponible, on a son côté prêt à aider, et même si c'est tard, même si la journée a été longue, et premier exemple pour nous, sommes-nous aussi sensibles à la souffrance autour de nous, à la maladie, au handicap, sommes-nous disponibles pour aider le soir venu? Sommes-nous à l'écoute? Sa vie s'inscrit dans ses prophéties. Tout à l'heure, on a lu Ésaïe 42, et je propose qu'on le relise avec ces trois choses-là. Donc, d'abord, Ésaïe 42, ensuite, la correspondance dans Matthieu, et quelques exemples pour nous. Alors, comment faire pour vous montrer en même temps? Comme ça. La vache casse pas tout. Voilà. Donc, Ésaïe 42 qu'on a lu tout à l'heure. Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé en qui mon âme trouve son plaisir, a trouvé son plaisir. Et on l'a dit tout à l'heure, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Ça, c'est au baptême. Et celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Écoutez-le, c'est la transfiguration. Donc, deux fois. Et pour nous, exemple pour nous, eh bien, le contempler. Contempler Jésus. Être occupé de l'amour du Père pour le Fils. Écouter Jésus. Et un serviteur en qui il trouve son plaisir. Nous appliquer avec ardeur à lui être agréable. Est-ce qu'on est agréable au Seigneur? Est-ce qu'on s'y applique avec ardeur? Est-ce que ça fait partie de notre motivation, notre joie, le contempler, de penser à l'amour du Père pour le Fils, de l'écouter, mais aussi de lui être agréable? Donc voici une première application ici à nos vies de cette prophétie d'Ésaïe 42 qui s'est accomplie dans sa personne, dans sa vie. Je mettrai mon esprit sur lui. On sait que l'esprit de Dieu est descendu comme une colombe venant sur lui. Mais nous aussi, on est concernés par l'esprit. Hein, nous sommes scellés par l'esprit. Éphésiens 1 et 4. On devrait ne pas l'attrister, Éphésiens 4. L'esprit habite en nous. Romains 8 et 1 Corinthiens et Éphésiens et 2 Timothée. Soyons remplis de l'Esprit et marchons par l'Esprit. Je mettrai mon esprit sur lui. Donc nous aussi, on est totalement concernés par cet exemple. Et il annoncera le jugement aux nations. Donc il va s'intéresser aux nations. Je n'ai même pas trouvé en Israël une si grande foi, dit-il en parlant du centurion, qui ne voulait même pas que le Seigneur se dérange, se déplace. Matthieu 8. Et nous aussi, on est encouragé par la foi qui est dans l'autre. On est encouragé de voir la foi de quelqu'un d'autre, là où on s'y attendait peut-être pas. Par exemple, dans Romains 1. Il ne contestera pas, il ne criera pas, personne n'entendra sa voix dans les rues. Les pharisiens étant sortis d'un conseil contre lui pour le faire périr, mais Jésus, le sachant, se retira de là. Il se retire. Il ne va pas à la confrontation à ce moment-là. Il se retire, de grandes foules le suivent, les guérit tous, et il leur défendit expressément de rendre son nom public. Donc son but n'était pas de se faire de la publicité, son but était de servir. Pour nous, discrétion, douceur, pas de recherche de gloire, mais recherche des besoins, et y répondre. discrétion, douceur, service. Là encore, le Seigneur, un exemple pour nous. On continue la lecture d'Ésaïe 42. Il ne brisera pas le roseau froissant et il n'éteindra pas le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Alors, on le challenge. Mais pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des pécheurs? Et Jésus, l'ayant entendu, donc c'est lui qui prend la défense. Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Mais allez et apprenez ce que c'est, je veux miséricorde et non pas sacrifice. Donc s'il y a des roseaux froissés, s'il y a un petit peu de lumière, s'il y a un petit quelque chose, eh bien, il ne va pas tomber dessus. Il va le respecter, il va aider, il va ici intervenir pour aider et pour parler en leur faveur. Et ils se portent mal, eh bien je suis venu là. Et pour nous, par rapport à ça, si tu en entends le son, dit Jésus à Nathanaël, à Nicodème, pardon, tu en entends le son, voilà, on entend le son, on est en relation avec quelqu'un, eh bien, on peut être attentif à tous les signes. On entend des signes, on entend des quelque chose qui nous fait comprendre que l'esprit travaille dans une personne. Et c'est pas, ça ne rentre pas dans un cadre. Ce n'est pas toujours pareil. Mais voilà, le vent souffle où il veut. Tu ne sais pas d'où il vient ni où il va, mais tu en entends le souffle. Alors, le roseau est peut-être froissé. Il n'y a peut-être qu'un peu de lumière, mais on est attentif. On peut rencontrer les personnes, nos enfants, notre conjoint, nos amis, toutes les personnes que nous rencontrons, les rencontrer là où ils se trouvent, sans imposer un schéma. Et on a cité hier soir aussi le fait que pour la femme samaritaine, quand elle revient, elle aussi remplie de sa rencontre avec Jésus, eh bien, elle n'impose pas un schéma. Voici un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, celui-ci ne serait-il point le Christ? Elle pose une question. Elle interroge autour d'elle, elle pose une question, mais n'impose pas, ne brise pas le roseau froissé, on n'éteint pas le lumignon qui brûle. Et on termine la lecture d'Ésaïe 42, les nations espéreront en son nom, donc à la fin, tout le monde est concerné. Et l'évangile de Matthieu se termine par « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ». Imaginez une telle déclaration. Hein? Imaginez une telle déclaration. Quelqu'un qui vous dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ». Mais c'est grandiose. Allez donc et faites ici toutes les nations. Voilà ce qu'on appelle le grand envoi, message, la grande mission qui nous est envoyée. Alors avons-nous nous aussi la mission à cœur? Une mission universelle, est-ce que nos yeux sont sur le champ de la moisson, dans le monde entier, est-ce que nos prières les accompagnent? Un message qui est pour tous les peuples, est-ce qu'on est concerné? C'est valable bien sûr pour toute personne autour de nous et toute personne plus loin, c'est universel, c'est un message où le Seigneur nous invite à nous engager pour lui. Donc sa vie s'inscrit dans ses prophéties et nous encourage dans nos vies. Et encore un point. En Matthieu 26, toujours dans l'aspect que la vie de Jésus s'inscrit dans ses prophéties et que ça nous parle. Matthieu 26, Jésus leur dit « Vous serez tous scandalisés à mon sujet cette nuit. Car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Mais après que je serai ressuscité, j'irai devant vous en Galilée. Alors il était leur berger, et il utilise cette prophétie de Zacharie, « Je frapperai le berger, les brebis du troupeau seront dispersées », il se l'applique à lui-même, Et en fait, il leur donne un rendez-vous. Il leur annonce sa résurrection et il leur donne un rendez-vous en Galilée. Donc il annonce, attention, moi je suis berger, mais il y a un risque de dispersion. Mais je vais ressusciter et je vous donne un rendez-vous. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un exemple ou un encouragement pour notre vie? Est-ce qu'on ne peut pas un peu appliquer cette situation à la vie actuelle? Parce que le Seigneur, il est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il s'occupe de nous. Il est notre berger. Donc, c'est formidable. Simplement, il y a un risque que les brebis du troupeau soient dispersées. Il y a un risque dans le monde où on est que le mal, que l'ennemi, que tout ce que l'on entend, tout ce que l'on reçoit comme message du monde qui sont négatifs, qui sont opposés au Seigneur, qui sont opposés à lui, soit comme des scandales, soit comme des choses qui dispersent les brebis du troupeau. Donc il y a un risque dans ce monde d'être dispersé. Et c'est pour ça que le Seigneur nous encourage à nous rassembler, à former une église, être un troupeau rassemblé, parce que la tendance à être dispersé, elle est présente. Et c'était déjà le cas pour ce petit groupe. Simplement, il les encourage avec un rendez-vous. Après que je serai ressuscité, j'irai devant vous en Galilée. Donc, risque d'être dispersé, mais on se retrouve. Je ne voudrais pas que ça sonne un petit peu avec ce qu'on pourrait retirer de notre journée. Hein? Risque d'être dispersé. Risque de ne pas rester près du berger. Mais en fait, comment encourage-t-il son équipe ici? Il les encourage avec la promesse des retrouvailles, avec la résurrection, et on va voir cet après-midi à quel point la résurrection est centrale dans la promesse de sa venue. Quand je serai ressuscité, j'irai. Donc on se retrouve, on se revoit. Là, c'était le rendez-vous en Galilée, et pour nous, c'est le rendez-vous de son retour. Donc, il est le bon berger. Risque de dispersion, donc restons ensemble, serrons-nous les coudes, restons ensemble. Et ce qui nous encourage, c'est qu'il est vivant et qu'il revient. Il est vivant et il revient, c'est le sujet de la prochaine conférence après la pause.
Merci. Je voulais juste vous demander de reprécision par rapport à ce texte de Daniel où il nous donne des dates et où bizarrement je connais bien Daniel et ça j'ai jamais fait attention. Et voilà, et je voudrais que vous le reprécisiez parce que ça me semble central et important et j'ai pas tout compris.
D'accord, merci de. Merci de poser la question, effectivement, puisque comme Étienne ce matin dans son introduction a bien précisé qu'on ne ferait pas trop d'administratif et de technique, je l'avais glissé discrètement en me disant si quelqu'un remarque, on verra. Mais voilà, comme vous soulignez, ça nous permet maintenant d'avoir un exposé de 3 heures sur la prophétie. Donc enfin, on va pouvoir rentrer dans la matière. Alors. Voilà, c'est mieux, hein. Donc, chapitre 9 de Daniel. Chapitre 9 de Daniel. On est dans la partie, vous savez que le prophète Daniel est coupé en deux parties, 6 chapitres historiques, mais avec plein de choses extraordinaires qui se passent, et puis 6 chapitres prophétiques. Et dans la deuxième partie, donc dans les 6 chapitres prophétiques, on a chapitre 9, qui est une belle et longue prière de Daniel, de confession, où il sent que voilà, qu'il est devant son Dieu, Et à un moment, verset 23, l'ange lui répond, lui dit, au commencement de tes supplications, la parole est sortie et je suis venu pour te la déclarer car tu es un bien-aimé. Donc toi, Daniel, on va maintenant t'expliquer. Comprends donc la parole et sois intelligent dans la vision. Donc on est dans Daniel 9, 24. 70 semaines, donc 70 septaines, 70 groupes de sept ont été déterminés sur ton peuple, peuple juif, et sur la sainte ville, Jérusalem, pour clore la transgression et pour en finir avec le péché, et pour faire propitiation pour l'iniquité, et pour introduire la justice des siècles. Donc on comprend qu'on lui annonce que en 70 fois 7, mais on ne sait pas combien encore, si c'est des années, des siècles, hein, au début on ne sait pas, mais on lui annonce qu'avec ça on va clore le dossier. Il faut bien imaginer, on clôt le dossier de la transgression et des péchés. C'était le premier slide, il est venu pour sauver. Il est venu pour sauver. Et donc, effectivement, c'est bien pour clore le sujet de la transgression et des péchés, pour l'iniquité, pour introduire la justice des siècles, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Donc c'est vraiment, on va terminer l'histoire, on va clore le sujet, et ensuite, on est dans le royaume, on va dire, on est dans le moment où le Christ aura toute autorité sur la terre. Et sache, et donc c'est le verset que j'ai cité, sache et comprends, depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem, donc on peut penser depuis la sortie du début du livre de Néhémie, jusqu'au Messie le prince, il y a 7 semaines et 62 semaines, donc 69, donc là je ne donne pas de détails parce que c'est pas très facile à savoir ce qu'il voulait dire avec 7 plus 62. La place et le fossé seront rebâtis, donc là on peut penser que c'est les travaux qui se sont passés avec Néhémie, et cela en des temps de trouble, et après les 62 semaines, donc 7 plus 62 et 69, donc après les fameux 483 ans, maintenant qu'on pense que c'est quand même des années, puisqu'on se dit mais ça ne peut pas bien être des semaines de jours, parce que ça ne boucle pas du tout, alors le Messie sera retranché et n'aura rien. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville. Donc on pense que c'est les Romains. Il y aura un prince qui viendra, donc un chef romain peut-être, et son peuple, les Romains, vont détruire la ville et le lieu saint. Ça, ça a eu lieu en 70 après Jésus-Christ, quand les Romains ont détruit Jérusalem. Voilà. Et il y a encore quelque chose. Mais on peut penser que c'est vraiment une datation. Et quand les rois mages sont venus, quand les mages, plutôt je les appelle rois, mais quand les mages sont venus d'Orient pour adorer le petit enfant qui est né, on se dit, mais comment ils pouvaient penser qu'il y avait un roi qui était né? Pourquoi ils viennent à Jérusalem chez le roi pour dire, mais le roi est né? Qu'est-ce qui pourrait leur donner des éléments dans leur dossier? Et on peut penser que ça, c'est un élément au dossier. C'est-à-dire que si eux-mêmes aussi ont calculé, en étudiant les livres, ont calculé qu'on était dans la période où il y aurait peut-être un bébé qui va naître du Messie, bien sûr qu'ils ne savaient pas eux à quel âge il allait mourir, mais enfin on est dans des dates qui correspondent, sachant qu'il y a une étoile, ils ont vu une étoile, et qu'il y a encore une autre prophétie qui parle d'une étoile avec le Messie dans les nombres. Donc ils ont peut-être ce genre d'éléments, mais enfin au niveau datation, pour savoir si on était dans la génération de l'arrivée du Messie, c'est ce texte qui est peut-être le plus fort. Mais voilà, on a quand même une indication ici de date qui est vraiment, vraiment intéressante. Et on sait que Daniel était déjà, on va dire, positivement préparé à ce genre de calcul ou de considération, puisque lui-même, en étudiant les livres, en lisant Jérémie, avait compris que ça allait durer 70 ans, la transportation des Juifs. Et donc lui-même comprend en lisant les livres qu'il y avait 70 ans et qu'à la fin des 70 ans, il y aurait une autorisation de Babylone de repartir et de s'occuper de nouveau d'Israël, de Jérusalem, etc. C'est ce qui s'est passé. Donc c'est assez cohérent que celui qui nous donne les dates soit quelqu'un qui est lui-même regardé dans les livres, compris les dates, etc.
Comment faut comprendre le fait que dans l'Ancien Testament, justement, les choses, les dates sont assez précises, comprises, pas parce qu'ils sont concis, Dans le Nouveau Testament, ça a été maintenu que ce soit suffisamment fou, peut-être voilé.
Alors, mais je croyais que j'avais dit quand je donnerai la date cet après-midi. Mais une réponse à ta question, c'est parce que le Seigneur vient aujourd'hui. Donc il y a la présentéité, le fait que le Seigneur vienne sans date et sans condition, comme il vient aujourd'hui, comme il vient bientôt, et bien c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de date. Et tu as le plan de l'Apocalypse est donné dans un verset à la fin du chapitre 1. Voilà, toi, Jean, prends ton stylo, écris les choses que tu as vues, les choses qui sont et les choses qui vont venir après celles-ci. Les choses que tu as vues, c'est la vision qu'il venait voir, et on la lira tout à l'heure, ce soir. Les choses qui sont, c'est l'Église, c'est la période actuelle de la grâce, et les choses qui viendront après celles-ci, à partir du chapitre 4 de l'Apocalypse. Et les chapitres 2 et 3, c'est l'histoire de l'Église. Et en fait, l'Église, la période actuelle dans laquelle on est, c'est les choses qui sont. L'Église, elle est au présent, parce que le Seigneur vient aujourd'hui. Il peut venir chaque jour. C'est ça que ça veut dire.